Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous. Et merci à celles et ceux qui écoutent le réveil culturel en différé et qui sont abonnés au podcast de l'émission, au podcast disponible en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Mercredi, c'est cinéma, mais aujourd'hui, on va parler d'un livre plutôt que d'un film qui sort en salle. On va évoquer Jacques Rivette, critique de cinéma. Ses écrits parus entre 1950 et 1969, notamment dans les cahiers du cinéma, ont été réunis dans un livre par Miguel Armas et Luc Chessel. C'est la première édition intégrale des textes critiques de Rivette que publie Post-Édition. Jacques Rivette, texte critique, c'est le titre de l'ouvrage. Luc Chessel, qui signe aussi la longue introduction de ce livre, est avec nous ce matin. À la coordination, Corinne Amar, à la prise de son, Manu Couturier. Le Réveil culturel est une émission réalisée par Vincent Abouchard.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Luc Chessel. Jacques Rivette, donc, grande figure de la nouvelle vague, auteur de films aussi marquants et importants que La Religieuse, Céline et Julie vont en bateau ou La Belle Meuseuse, et aussi le plus secret de la bande des Turcs de la nouvelle vague, ou la bande des cinq, ou le club des cinq, c'est-à-dire les Godard, Truffaut, Chabrol, Romer. Il en faisait partie, Rivette. Enfin, bref, ces cinéastes qui ont été d'abord critiques. Et le mot que l'on puisse dire quand on a lu ce livre, ces textes réunis de Rivette, c'est qu'il était vraiment un grand théoricien du cinéma moderne. On le savait d'ailleurs, Luc Chessel on le savait, mais beaucoup plus parce que d'autres critiques après lui l'ont cité, je pense à Serge Danet, mais on se rend mieux compte quand on a lu ce recueil d'analyses publié, donc comme je le disais, entre 1950 et 1969, en passant par les années cahiers du cinéma, revue qu'il a dirigé Jacques Rivette. Tout d'abord, est-ce que les critiques de Jacques Rivette, est-ce que le Rivette critique nous renseigne sur le Rivette cinéaste?
Oui, sans doute, peut-être pas de manière forcément directe, mais oui, de loin en loin. En tout cas, il y a un certain nombre de thèmes ou de choses qu'il voyait dans les films des autres, des grands maîtres, des gens qu'il a rencontrés, Jean Renoir, Rossellini, ou qu'il a admiré, Hitchcock, Howard Hawks, qui l'ont inspiré. Il y a peut-être d'autres choses, il y a l'idée que ce qu'il voyait dans ses films, en plus de leur grande réussite, leur grande beauté ou de l'importance historique qu'il leur a immédiatement attribuée, des choses peut-être plus secrètes et plus mystérieuses et qu'on retrouve beaucoup dans son œuvre, des thèmes de qui seraient l'idée que aux choses telles qu'elles nous apparaissent, au monde réel, tel qu'on peut le filmer ou le vivre dans la vie de tous les jours, mais tel qu'une caméra peut le capter, il y a à l'œuvre un certain nombre d'idées directrices, de choses qui les relient, qui créent des rapports entre elles, entre les choses du monde, pour parler comme ça un peu généralement, et que le cinéma serait capable aussi de révéler, pas seulement de montrer les choses telles qu'elles sont, ou les acteurs tels qu'ils jouent, ou raconter des histoires, mais de révéler comme des rapports qui, à l'œuvre dans le monde, et qui le manœuvre de manière un peu secrète. Il y a quelque chose comme ça, que les grands cinéastes auraient proposé des théories du monde ou proposé des idées du monde à travers leurs films et que le rôle de la critique serait de les élucider un peu ou de donner des indices pour bien les comprendre. Et c'est des choses qu'on retrouve dans ces films par les thèmes beaucoup du complot, du jeu ou les troupes d'acteurs ou les groupes d'acteurs qu'il a filmés ou des principes organisateurs un peu mystérieux sont à l'œuvre en permanence. C'est peut-être un peu...
Direz-vous la même chose, vous qui êtes critique, Luc Chessel, direz-vous que Jacques Rivette a révélé quelque chose dans son cinéma?
Je pense pas qu'il l'ait complètement révélé, et c'est quelque chose qui est là et qu'on cherche en voyant ses films, quand on les aime, mais il l'a pas livré lui-même, non, je suis pas sûr. Il a cherché à livrer les secrets des autres quand il était critique de cinéma. Pour son œuvre, il a... peut-être un peu plus brouiller les pistes tout en rendant les choses toujours très transparentes et très gracieuses, parce que c'est plutôt des films finalement légers. Mais non, il n'a pas donné le secret de son œuvre, à mon avis. Il est là quelque part, mais...
Dans ce recueil d'écrits de Jacques Rivette, il n'y a pas seulement les articles publiés dans les différentes revues de cinéma de son époque, c'est-à-dire dans les années 50 et 60, il y a aussi quelques textes inédits. Comment vous les avez retrouvés, Luc Chessel?
On les a retrouvés dans ses archives, dont une partie avait été déposée par lui-même à la Cinémathèque française. c'était un lieu très important pour lui dès le début de sa vie, et toute une autre partie assez importante qui reste à être déposée et qui était donc chez sa femme, Véronique Magnier-Rivette, qui nous a beaucoup aidés en nous montrant très généreusement beaucoup de choses, avec le désir que ça en devienne un beau livre, rendre les choses lisibles et qu'on puisse en faire usage maintenant au futur. Et donc on a lu un certain nombre de choses inédites qui pouvaient être des cahiers qu'il écrivait, des notes qu'il prenait, des choses fragmentaires ou plus ou moins, et on en a fait une sélection qu'on a décidé de mettre dans le livre.
Alors comment vous, Luc Chessel, êtes-vous arrivé au cinéma de Jacques Rivette? Par quelle porte, par quelle fenêtre, par quel film?
Ah, c'est une bonne question. C'est sans doute Céline et Julie vont en bateau, que j'ai dû voir dans une salle de cinéma quand j'étais petit.
Ça suffit pas de dire quand j'étais petit, hein, parce que vous n'étiez pas né en 1974, non, je tiens à le rappeler, vous avez moins de 30 ans,
c'est que votre il y a pas très longtemps.
Co-auteur. Donc,
Céline et Julie, ouais. Une bonne entrée dans, ouais, le cinéma de Rivette, parce que c'est précisément seulement des histoires d'espace plus ou moins virtuel, plus ou moins réel, et de portes dérobées par lesquelles on peut entrer ou pas, rentrer et se retrouver à l'extérieur. Il y a tout un truc avec cette maison dans Céline et Julie, donc c'est une sorte d'entrée un peu labyrinthique dans l'œuvre de Rivette. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, dans cette œuvre labyrinthique de Rivette?
Sans doute ça, et les actrices, les comédiennes qui jouent dans ces films. Qu'est-ce qui m'a plu dans Céline et Julie? Tout. C'est un des meilleurs films jamais fait, à mon avis. Quelque chose qui dit aussi...
Mais c'est de l'ordre de l'esthétique ou de l'ordre du message ou de ce que vous avez senti, perçu, de ce que voulait dire Rivette à travers ce film?
Moi, je sais pas, mais en tout cas, Rivette, dans ce qu'il a écrit sur le cinéma, tous ces textes-là du livre, il a jamais séparé les deux mots que vous venez de dire, qui seraient l'esthétique et le message. Il a plutôt toujours cherché à les penser ensemble, toujours rejeter les films qui prétendaient pouvoir les séparer, qu'il y aurait une forme cinématographique sur laquelle on pourrait expérimenter indépendamment du contenu des films, ou qu'il pourrait y avoir un contenu ou un message assez fort pour exister au cinéma sans...
Et vous êtes tout à fait d'accord avec lui.
Et c'est ce qu'il appelle la mise en scène. Ce, ouais, mot qu'on utilise quand même beaucoup aujourd'hui, c'est lui et quelques autres, Romère, Bazin et tout, mais surtout lui, c'est vraiment son truc qu'il a théorisé et développé. Il y a beaucoup de mise en scène dans ce bouquin.
Alors justement, ce mot ramené du théâtre au cinéma par Rivette est au centre de la plupart de ses écrits.
Oui.
C'est quoi la mise en scène pour Jacques Rivette?
La mise en scène, c'est beaucoup de choses. Il dit à un moment, dans un bout de... dans ses cahiers inédits, ses fragments, que c'est l'organisation concrète dans le temps et dans l'espace des éléments du réel, ce qui nous renseigne un peu, mais pas tant que ça. C'est beaucoup de choses, la mise en scène, pour lui. C'est même tout. Il y a beaucoup de définitions successives, comme c'est des textes qui ont été écrits du début des années 50 aux années... la fin des années 60. Et puis ensuite, dans le livre, il y a aussi un entretien avec lui de 99 par Hélène Frappa, ouais, où il parle de beaucoup d'autres choses plus tard, après avoir fait bien plus de films, même s'il faisait des films tout en écrivant ses critiques dès le départ. Donc là, il y a plusieurs versions de ce qu'est la mise en scène, mais on peut se dire, si on prend Rivette entièrement, le Rivette critique à un moment arrête un peu d'en parler parce que ça commence à prendre et que tout le monde commence à parler de mise en scène, y compris au cahier du cinéma. Puis ensuite, il faut changer de mots, c'est les débats interne peut-être de l'époque. Par contre, dans les génériques de ses films, il a toujours été crédité, s'est crédité lui-même comme metteur en scène, à la mise en scène. Il n'a jamais été réalisateur ou un film d'eux. C'est mise en scène Jacques Rivette. Et finalement, si on prend les deux ensemble, et ses théories du cinéma et la manière dont il a tourné ses films, qui donne beaucoup de place à la liberté du tournage et à l'improvisation, la liberté donnée aux acteurs d'inventer des choses, je me dis que la mise en scène, c'est peut-être ça, le secret du tournage. Et que dans les films de Rivette, on voit, c'est devenu un cliché critique de dire que les films sont les documentaires sur leur propre tournage. On dit souvent que c'est Jacques Rivette qui a dit cette phrase, mais c'est pas vrai. Mais vraiment, dans les films de Rivette, il y a ça, la présence du tournage, c'est-à-dire le moment où les choses se mettent en scène, ou à partir d'idées préétablies ou bien réfléchies, parce qu'il pensait beaucoup, les choses changent et il y a quelque chose de direct qui peut se produire avec la présence d'une caméra. Et même, on pourrait dire que Rivette, puisqu'on a une sorte de trinité de la nouvelle vague, c'est toujours Truffaut, Rivette, Godard. Truffaut écrit quand il était critique, et ensuite cherche beaucoup des choses du côté du scénario. Godard, comme on sait, a beaucoup travaillé le montage comme notion quand il écrivait dans les quais du cinéma très jeune, et puis évidemment dans ses films. Et Rivette, pour moi, finalement, la mise en scène, ça serait l'idée du tournage comme lieu du cinéma en tant que tel, où les choses se passent, où on prend des décisions qui vont pouvoir laisser passer un peu de réalité, être enregistré, les choses qui...
Laisser passer la vie, oui. Et comment représenter le réel tout en imprimant son point de vue, c'était au centre de ces questionnements. Mais je vous propose, Luc Chessel, de retrouver Jacques Rivette en 1966, alors que son film La Religieuse est interdit par le pouvoir gaulliste.
Jacques Rivette, vous vivez avec cette religieuse une aventure à peu près analogue, je crois, à celle que Diderot a vécue, en somme, à son époque. Voudriez-vous me parler de cela ?
Il est en effet assez curieux de remarquer que le sujet de la religieuse était, enfin, d'une certaine façon, si on peut le résumer très grossièrement, l'arbitraire, et que le film est actuellement soumis à un régime que l'on peut aussi, je crois, qualifier d'arbitraire, sans avoir peur des mots. Parfois, c'est une coïncidence que nous n'avions évidemment absolument pas cherché, absolument pas voulu. Elle est amusante un petit moment. Je crois que si elle se prolongeait trop longtemps, elle cesserait d'être drôle.
L'œuvre de Diderot était un livre libertin au sens 18e siècle du terme. Est-ce que vous avez fait, vous, un film libertin, dans le même esprit ?
Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que le livre de Diderot est un livre libertin. C'est un livre, en fait, beaucoup plus grave que ce que l'on a l'habitude d'appeler par le terme de littérature libertine. C'est un livre extrêmement sérieux que Diderot a écrit, pas du tout dans le même esprit où il avait écrit, par exemple, Les Bijoux indiscrets, mais au contraire, beaucoup plus sous l'influence des romans de Richardson. Et s'il y a effectivement dans ce livre 3 ou 4 pages érotiques, qui d'ailleurs, ce sont les seules pages dont on se souvienne, en fait, il n'y en a que 4 ou 5 sur un livre qui fait 200 pages, ces pages ont un sens très précis à l'intérieur d'une histoire. Et les séparer de l'ensemble de l'histoire, c'est évidemment leur enlever complètement le sens qu'elles ont.
Vous avez choisi Diderot et une œuvre au fond peu connue de lui. Le grand public n'avait pas lu La Religieuse. Pourquoi ? Il n'y a plus de jeunes auteurs de cinéma actuellement qui puissent vous écrire des scénarios originaux et de qualité ?
Si j'ai choisi Diderot, ce n'est pas du tout par mépris des jeunes auteurs ou de la littérature contemporaine. Moi, je crois que de toute façon, Diderot est un jeune auteur. C'est même certainement un des plus jeunes auteurs de la littérature française, dans la mesure où son œuvre est effectivement... les titres en sont assez connus, mais elle est relativement peu lue.
Voilà, Jacques Rivette à Cannes en 1966. Diriez-vous, Luc Chessel, vous qui avez coordonné cette anthologie des textes critiques de Jacques Rivette chez Post Édition, qu'il reste le plus jeune des réalisateurs français ? Comme il le disait lui-même de Diderot.
Sans doute, et en tout cas il a été peut-être le plus jeune des critiques. Il y a quelque chose de fortement passionné et urgent dans chacune des lignes de tous ces textes. Et puis un éloge en fait finalement permanent de la jeunesse, même si les cinéastes qu'il admirait le plus au départ étaient en fait des vieux maîtres ou des gens déjà d'un certain âge, d'une certaine expérience, d'un cinéma passé, etc. Mais c'est leur jeunesse dont il n'a cessé de faire l'éloge et de...
On va y arriver, cinéaste vu par Jacques Rivette, mais il était marqué par quoi? En lisant ses critiques, il y a beaucoup, bien sûr, de références littéraires, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce passage où il parle de Diderot. La philosophie est très très présente.
Oui, elle l'est. Par des citations directes ou indirectes, on voit... Finalement, il y a beaucoup de Hegel, aussi bizarre que ça puisse paraître dans ce livre, il y a quelque chose d'hegelien. Je ne sais pas si c'est la peine de le développer, mais...
Cherchant ces mots, Luc Chessel, mais vous pouvez prendre le temps.
Non, la philosophie, oui, je sais pas. En tout cas, il y a en permanence un double mouvement qui est une pulsion vers la théorie, vers des formules qui pourraient dire tout ce qu'est le cinéma, même s'il y a plusieurs versions de cette formule à travers le temps. Quelque chose de très synthétique et en même temps... La possibilité que ces théories servent en permanence à parler de la vie elle-même, la vie en tant que telle, ce qui est peut-être aussi seulement une idée, mais c'est le cinéma qui s'est le plus approché de cette idée, d'après Rivette en tout cas. Il y a le côté théorique et le côté vivant sont toujours main dans la main, inséparables. La question c'est comment passer de l'un à l'autre, comment passer de l'idée au réel, enfin là, ce dont on parlait. Il y a sans doute quelque chose de philosophique pour lui dans le cinéma, dont il exposerait une théorie qui doit être, qui serait forcément toujours incomplète, que chaque film réinventerait de fond en comble, chaque film qu'il voit ou qu'il revoit.
Et puis, en plus de la philosophie, de la littérature, il y avait la peinture. On n'aura pas le temps de parler de comment il convoque Matisse pour parler de Rossellini. C'est très important. C'est dans votre livre, texte critique. Il a été aussi marqué par la politique. Un de ses textes les plus importants concerne le film de Gillo Pontecorvo, Capo, intitulé « De l'abjection ». Ouais. Je fais partie de ceux qui ont toujours attribué cette critique à Serge Daniel, alors que c'est complètement faux. Serge Daniel n'a pas vu le film de Pontecorvo parce qu'il disait qu'à travers la critique signée par Rivette, il voyait de quoi il s'agissait, il fallait surtout pas voir ce film. Ouais. Alors c'est une histoire très politique, on sort de la guerre. Qu'est-ce qu'il dit dans cette critique, Jacques Rivette, Luc Chessel?
Il dit, ce qui est resté célèbre, parce qu'en effet, Daniel a repris au début des années 90 en disant qu'il verrait jamais le film de Pontecorvo, c'est que ce Pontecorvo, donc le metteur en scène, le cinéaste, l'homme qui a fait Capo, est un salaud pour une affaire de travelling, un plan qui est dans le film où la caméra recadre sur le visage d'Emmanuel Riva au moment où elle se jette sur les barbelés, elle est électrocutée. Ça, c'est ce qu'il y a plus connu dans le texte. Il y a sans doute d'autres choses, mais il y a cette idée. On peut penser que c'est la critique moraliste, qu'il y a une histoire de morale là-dedans. Finalement, moi, j'ai tendance à penser que Rivette reprochait à Pontecorvo et à ce film, qui est un film qui se passe dans un camp d'extermination et un camp de concentration nazi, avec des déportés, joués par des actrices reconstituées en studio, tout très beau. Ce qu'il détestait dans ce film, finalement, c'était pas son amoralisme, mais plutôt son moralisme. C'est un film qui, en permanence, est en train de juger les actions des personnages. Et la caméra, quand elle fait ce beau petit mouvement de recadrage, c'est l'atroce travelling. C'est une caméra qui est en permanence en train de prononcer des jugements moraux sur les personnages. Donc moi, j'entends la chose un peu renversée. C'est finalement le moralisme de la mise en scène de Pontecorvo qui déteste, et c'est ça qui est une sorte de politique facile qui est pas du tout la politique du cinéma.
En tout cas, cet article a assassiné Pontecorvo. Moi qui l'ai rencontré au début des années 2000, parce que j'avais quelques réserves concernant son film La Bataille d'Alger, ouais. Il m'a tout de suite parlé de cette polémique, de sa critique, en se justifiant, rappelant ses origines modestes, lui, juif, communiste, italien. Donc c'est un film, c'est une critique qui l'a vraiment marqué.
J'ai 26 ans, mais seulement 4 d'utile. Je ne comprends rien à rien. J'ai peur des papillons. Mon père est mort à la guerre. Quand j'étais petite, j'avais un gilet en angora rose qui s'arrêtait avant les côtes flottantes. Les vieux messieurs m'aimaient beaucoup. Je ne crois pas à l'expérience. Je me méfie des endroits clos. Je ressens la paresse comme une maladie. Il faut te dire que j'ai derrière l'oreille un coin de peau extraordinairement doux, que j'aime les laitages et les bananes très mûres. Je souhaite toujours qu'un ouragan m'emporte, c'est pourquoi je me suis attachée sur ce fauteuil avec des sangles de vélo. J'aime toutes les histoires qui commencent par il était une fois, je le café au lait. Avant, les garçons me frottaient toujours les oreilles. Une fois, j'ai vu des chars blindés sur l'avenue d'Orléans. Les rengaines d'amour et les frites me font pleurer. Sur l'eau, les bateaux me suivent toujours. Ils me font peur.
J'ai 26 ans, Brigitte Fontaine sur France Culture, et je suis avec Luc Chessel qui a aujourd'hui 26 ans. Alors non, mais je voulais aussi parler de votre âge, Luc Chessel, parce que je me posais la question, est-ce que toutes les grilles de critiques, grilles artistiques, idéologiques de Jacques Rivette sont aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, alors que le cinéma a muté, il a changé, il s'est multiplié, est-ce qu'ils sont toujours valables ces grilles?
Je sais pas si c'était des grilles, mais... Ouais, il a
ou une approche.
Certainement influencé beaucoup et aussi en souterrainement, puisque ces textes ont circulé un peu. Certains sont connus, mais le livre n'existait pas. Il a pas fait en sorte que le livre existe de son vivant. Donc ça, c'est une influence souterraine, à mon avis. Oui, ça a influencé toutes les personnes qui écrivent sur le cinéma aujourd'hui ou qui voient des films.
Est-ce que votre manière d'écrire est une continuité justement des textes critiques de Jacques Rivette ou de cette époque de la critique, c'est-à-dire les jeunes turcs de la nouvelle vague? Luc Chessel, vous êtes critique, quand vous n'êtes pas comédien, vous êtes critique, hein, notamment pour Libération.
Mais oui, on partage tous cet héritage. Puis aussi, il y a cette chose qui est le fait que les cinéastes sur lesquels il a écrit sont devenus aussi canoniques. Ils ont, à l'époque, les Cahiers du cinéma, Rivette et les autres. On peut dire aujourd'hui qu'ils avaient très bon goût et que, effectivement, la plupart des films qu'ils défendaient sont des chefs-d'œuvre. C'est qu'ils ont écrit l'histoire du cinéma et qu'on hérite pas seulement des grilles qu'ils ont inventées pour parler de ces films, mais de ces films eux-mêmes, de ces cinéastes, et donc de toute une vision du cinéma qui correspond, oui, à la cinéphilie des Cahiers.
Et celle d'aujourd'hui?
Yes.
Once upon a time, in a quiet little town, some very respectable people got into the trouble with Harry. John Forsyth, Edmund Gwenn, Mildred Natwick, Shirley MacLaine in her screen debut, and Jerry Mathers are all involved.
Alors justement, comment Jacques Rivette parlait de ce film? Comment il parlait d'Hitchcock? Est-il bon? Est-il méchant? Ce fut d'abord une devinette posée au spectateur. Le cinéma d'Alfred Hitchcock, le Laurence Olivier de Rebecca, le Cary Grant de Soupçon portent en eux-mêmes cette ambiguïté. Mais le jeu cesse vite. Ce n'est plus, dans l'ombre d'un doute, sur le personnage que l'on s'interroge. Est-il bon? Est-il mauvais? C'est de ce monde qu'il s'agit. Faut-il croire à la toute-puissance du mal ou s'y refuser? C'est toujours autour de cette interrogation que s'articule The Trouble with Harry. Le plus curieux de ce film est sans doute qu'il est impossible de trancher si les personnages en sont ou non, bons ou mauvais. Mais peut-être sont-ils déjà au-delà d'une telle distinction, ce qui ne simplifie pas les choses. Trêve d'exégèse. Je pense que le propre de la parabole est justement de se suffire à elle-même et de refuser une interprétation trop littérale. Il faut se plier aux faits. Au lieu de vouloir les penser, comme l'écrit encore Kafka, pourquoi protestez-vous? Si vous vous conformiez aux figures, vous seriez vous-même devenu figure, et par là, liberté du souci quotidien. Post-scriptum, si le monde n'est pas irrémédiablement condamné, du moins semble-t-il l'être, aux yeux de Hitch, de plus en plus suspect. Si la tenue a tourné durant l'automne, n'est-ce pas parce que le rougeoiement des feuillages représente en quelque sorte, sinon le pourrissement de la nature, tout au moins son annonce, l'image du ver dans le fruit s'y unit au souvenir de la robe rouge de l'adultère. C'était dans les Cahiers du cinéma en 1956. Luc Chessel, pour terminer.
Ce qui vient dans ce texte, c'est que lui, puisqu'il dit on ne peut pas trancher si les personnages sont bons ou mauvais, c'est vraiment un texte qui ne tranche pas pour savoir, parce qu'il devrait absolument décider si le film d'Hitchcock lui-même est bon ou mauvais. C'est un peu au-delà de ça. Il y a plein de textes de Rivette sur des films qui sont au-delà du bon et du mauvais, qui inventent des manières de parler des films, qui n'a pas forcément à décider uniquement de leur qualité ou d'exprimer un enthousiasme, particulièrement celui-là, je pense qu'il était un peu embarrassé en voyant mais qui a tué Harry, de savoir s'il aimait vraiment ce film. Il y a des films d'Hitchcock qui défoncent, qui l'éreintent complètement, et d'autres dont il fait un éloge total. Il y en a qu'on trouve assez mauvais aujourd'hui et qui défend contre des chefs-d'œuvre comme Fenêtre sur cour, mais pour des très bonnes raisons, très drôles. C'est dans le livre à un moment. C'est pas seulement qu'il a consacré tous ces grands cinéastes, mais il a aussi une pensée plus ambiguë du cinéma que celle de jugement critique qui recommanderait d'aller le voir ou pas.
Est-ce que vous considérez comme critique Luc Chessel pour terminer cet entretien?
La critique, c'est ni un métier, je vais pas parler forcément pour moi-même, mais c'est un, finalement, maintenant que c'est peut-être une question un peu moins brûlante qu'en 1953 pour Jacques Rivette, même si c'est bien qu'elle le soit encore, c'est aussi maintenant un savoir, quelque chose qu'on se transmet, dont on peut faire usage, des usages encore polémiques, mais le fait de publier là ce livre de Rivette, c'est aussi continuer à écrire l'histoire de la critique et cela passer un peu.
Les textes critiques de Jacques Rivette sont édités par Post Édition. Merci beaucoup Luc Chessel d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci.